5, Père Philippe, 11 avril 84, Saint-Joseph.
La découverte de la substance, principe, ne semble pas nécessaire pour affirmer que l'être concret implique matière, quantité, qualité, situs. En quoi donc le problème de l'individuation est-il le pose de la substance? Comment l'individuation éclaire-t-elle cette considération très castone? Il est bien évident que les prédicaments sont saisis avant la substance. Je n'ai cessé de le dire, puisque c'est une propédeutique. Or, les prédicaments nous parlent de la quantité, de la qualité et du situ. Donc, nous avons une première connaissance de la matière, de la quantité, de la qualité et du situ, antérieure à la connaissance de l'ousia. Mais, connaissant l'ousia, nous pouvons essayer de comprendre comment la substance se trouve réalisée dans notre monde physique. Et c'est tout le problème de l'individuation. Comment la substance se trouve réalisée dans notre monde physique? Et comment la substance que nous avons saisie, c'est-à-dire la substance de l'homme, la substance humaine, nous. Donc, comprenons bien. Il y a deux connaissances de la qualité et de la quantité. Ben, c'est toujours ce mode analogique qu'il faut respecter. Nous connaissons les mêmes réalités sous des aspects différents. Je sais bien que c'est ça qui est très difficile au point de vue philosophique. Et c'est tout simplement l'expérience commune que nous faisons tous les jours. Vous connaissez les légumes de différentes façons. Quand vous les épluchez et quand vous les mangez. C'est toujours les mêmes légumes. Vous connaissez les fleurs de deux manières différentes. Quand vous les regardez, quand vous les coupez pour les mettre dans un bouquet. Vous avez des connaissances diverses. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, l'individuation, c'est une connaissance nouvelle de la quantité, de la matière, de la qualité. Vue à partir de l'ousia. Et de voir comment l'ousia intègre cette complexité. Comment elle l'intègre selon une modalité particulière qui fait que nous sommes en présence de ce qu'est chaque réalité, les castodes, ce que nous sommes chacun. Et ça donne une nouvelle connaissance, puisque c'est une connaissance par rapport à ce qu'est la substance. Et donc par rapport à ce que représente notre unité spéciale numérique. Tandis que quand vous étudiez la qualité, la quantité, le situs au niveau prédicamental, vous l'étudiez uniquement comme telle détermination. Là, vous l'étudiez, j'allais dire, dans le complexe de la substance. Vous l'étudiez à l'intérieur même de cette substance vivante, de cette substance principe d'être, qui est l'homme. N'y a-t-il pas de problème de l'individuation par rapport aux substances séparées? C'est sûr, et ça ne regarde pas la philosophie, ça regarde la théologie. Hein. En philosophie, vous ne pouvez pas dire grand-chose des substances séparées. Vous ne savez même pas si elles existent, indépendamment de Dieu. Donc, la question de l'individuation des substances séparées, c'est-à-dire des anges, C'est un problème de théologie. C'est pour ça que je ne l'ai pas traité. Et que nous ne traitons pas en philosophie. Donc, n'y a-t-il pas de problème de l'individuation par rapport aux substances séparées? Sinon, en quel sens faut-il entendre l'adjectif individuel employé par saint Thomas quand il applique aux trois personnes divines la définition de Boès, la substance individuelle de nature raisonnable? Faisons attention, la substance individuelle, mais c'est l'homme, c'est pas les substances séparées. De nature raisonnable, puisque c'est la personne. La définition de Boès regarde la personne humaine et ne regarde pas la personne trinité en premier lieu. Donc elle regarde la personne humaine et c'est donc le problème que nous regardons de la substance individuelle. Qu'est-ce que c'est que l'individu? Qu'est-ce que je suis comme individu? Est-ce la même chose de dire individu ou substance individuelle? Oui, exactement. Et je précise substance individuelle, c'est-à-dire la personne. Et la personne humaine. Tandis qu'individu est quelque chose de beaucoup plus vaste. Je peux parler d'un tableau, c'est quelque chose d'individuel. C'est une réalité qui est individuelle. Et je peux parler de la personne humaine qui est un individu. Et alors à ce moment-là, je parlerai de la substance individuelle. Tandis que quand il s'agit d'un tableau, je ne parlerai pas de la substance individuelle. Pas tout de suite. Peut-être progressivement, en me posant la question, est-ce que ce tableau a une substance? Vous voyez, c'est un problème second. Je pose d'abord le problème de la personne comme substance individuelle. Donc, comprenez bien, quand saint Thomas se sert de la définition de Boès, c'est toujours à l'égard de la personne humaine. Et on se demande comment cette définition de la personne humaine peut-elle être transposée à l'égard des personnes divines. Mais c'est toujours à partir de la personne humaine. Nous allons maintenant regarder un problème tout à fait particulier, parallèle au problème de la substance, parallèle au problème de l'individuation, le problème de la subsistance.
En philosophie. J'ai pris extrait, mais je n'ai pas pris l'ordre exactement que j'avais pris dans les livres. Parce que je crois qu'il vaut mieux, ayant découvert la substance, tout de suite se poser le problème de l'individuation. Nous nous posons ensuite un problème particulier, qui est le problème de la subsistance. Je dis bien, c'est un problème particulier. C'est un problème qui s'est posé, vous allez le voir, par rapport à la théologie. Alors, nous allons nous poser le problème. Pouvons-nous intégrer ce problème de la subsistance en philosophie? C'est presque un problème critique. Parce que, est-ce que le fait de dire que la substance est principe, est-ce que ça ne suffit pas? Alors, il faut d'abord regarder qu'est-ce que c'est que ce problème. Et ceci, ça fait partie, j'allais dire, d'une tradition thomiste et d'une tradition théologique. Donc c'est plus que thomiste, c'est théologique. Je crois qu'au niveau purement philosophique, le problème de la subsistance ne se pose pas. Les Aristote, il se pose d'une certaine manière chez les néoplatoniciens en voyant comment l'esprit a une certaine autonomie. Et pour Aristote, l'autonomie fondamentale de l'homme, c'est la substance. Donc, au fond, la découverte de la substance comme principe lui donne son autonomie. Tout principe, du fait même qu'il est principe, a son autonomie. Et donc, la substance étant principe dans l'ordre de l'être,
a une autonomie dans l'ordre de l'être. Et cette autonomie dans l'ordre de l'être, c'est le problème, d'une certaine manière, de la subsistance. Chez les néoplatoniciens, vous verriez ça chez Platon, vous verriez ça dans le Décaosis. Le problème de l'esprit pose cette auto-lucidité. L'esprit est capable de se réfléchir sur lui-même. Vous voyez que cette auto-lucidité au niveau de l'esprit, c'est plutôt au niveau de la vie qu'au niveau de l'être. Vous avez donc deux problèmes philosophiques qui sont intéressants à voir, qui sont d'une part marqués. Tout principe, du fait même qu'il est principe, a son autonomie. Parce que l'autonomie veut dire tout simplement qu'on est relatif à personne d'autre. Moi, je suis autonome. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites ça? Vous voulez dire je ne suis relatif à personne. Le loup et le chien. Collier du chien, donc, il est relatif à son patron. Il est bien nourri, mais il est relatif à son patron. Le loup, il n'a pas de patron. Il est libre. Il est autonome. L'autonomie montre qu'on est relatif à personne. On a son autonomie. Donc, tout principe du fait même qui est principe a une autonomie. Une autonomie en l'air. Ce loup-là est principe dans l'ordre de l'être. Les néoplatoniciens parlent de cette attitude propre de l'esprit. Donc on est au niveau de l'esprit, pas au niveau de l'être. L'esprit est capable d'avoir cette capacité de se replier sur lui-même et donc d'avoir cette auto-lucidité. C'est tout le problème de la conscience. Ce repliement sur soi. Vous voyez, c'est la manière dont on vit son autonomie. C'est le vécu à l'intérieur de l'esprit. Et le vécu à l'intérieur de l'esprit fait qu'il n'y a pas de succession. Ce qui est passé peut être actuel dans mon esprit. Et donc, il y a cette lucidité particulière, cette auto-lucidité de la conscience. Et qui fait qu'il y a un repliement sur soi qui permet d'être conscient qu'on est au-delà du venir. L'esprit, dans la conscience qu'il prend de lui-même et dans son auto-lucidité, aperçoit qu'il est au-delà du venir. Il implique un devenir et il est au-delà du devenir. Oui, vous voyez la dialectique. Je reviens sur le point de départ. Et donc, c'est bien ça, c'est bien ça que les néoplatoniciens ont très fort saisi. Cette espèce de vécu propre de l'esprit qui peut se replier sur lui-même sans être dépendant de la succession. Quelque chose qui est passé est passé. Je ne peux pas le reprendre. L'esprit est au-delà du passé. Donc, il est au-delà du temps. Et quand j'ai dit au-delà du passé, je dis au-delà du temps. Il est duré. Et là, c'est un problème, vous dites, qui est au niveau de la vie. C'est ça qui me semble intéressant. C'est que vous avez un problème d'autonomie qui est au niveau de l'être. Il y a un problème de la conscience qui est au niveau de la vie de l'esprit. Et qui fait que l'esprit a cette possibilité de se stabiliser en lui-même. Il est auto-lucide, se stabilise en lui-même. Et donc il a une indépendance dans l'ordre de la vie.
Il a une autonomie dans l'anglais. C'est promettre une autonomie dans l'anglais. Ici, les deux courants, courant aristotélicien, courant néoplatonicien. Plotin. Il y a des expressions de Plotin et des expressions du Décaosis qui sont extrêmement intéressantes à ce point de vue-là. Parce que ça montre que l'esprit peut se stabiliser. Le devenir ne se stabilise pas. Tandis que l'esprit peut se stabiliser. Il a cette auto-lucidité, cette auto-suffisance qui fait que le passé n'est pas le passé, il est actuel. Ceci ne pose pas le problème de la subsistance. Mais je crois que le problème de la subsistance, vous allez voir, va peut-être être quelque chose qui va unir les deux. Et c'est pour ça que c'est si complexe. Alors regardons, ça c'est simplement pour éveiller votre question. Si je vois la subsistance tout simplement, vous ne vous poserez aucune question. Le problème donc de la subsistance s'est posé chez les théologiens à propos de l'incarnation. Le Verbe assume la nature humaine et fait que la nature humaine subsiste dans le Verbe. Et il s'est posé à propos des trois personnes divines. Alors, je crois que vous voyez bien ce problème au point de vue théologique. Donc, ce problème au point de vue théologique, c'est par rapport au mystère de l'incarnation. Le Verbe subsiste dans la nature divine et dans la nature humaine. Il assume la nature humaine d'une manière telle qu'il fait subsister la nature humaine dans le Verbe. Alors la nature humaine, ça a pris l'âme et le corps. Vous voyez cette situation particulière de l'âme du Christ qui subsiste dans le Verbe. Et non qu'il subsiste en soi. Notre âme subsiste en elle-même. Et l'âme du Christ subsiste dans le Verbe. C'est la pauvreté ontologique de l'âme du Christ qui subsiste dans le Verbe. Qu'est-ce que c'est la subsistance? Est-ce qu'on retire quelque chose à la nature humaine du Christ en disant que son âme humaine, son âme spirituelle, subsiste dans le Verbe? Qu'elle n'a pas de subsistance propre. Vous voyez le mystère, hein? Là vous touchez le mystère. Je ne cherchez pas à comprendre, et vous voyez où se situe. Ça, je ne peux pas dire que le Christ a deux personnes. Que son âme subsiste dans le Verbe. Et donc, l'unique personne du Christ, c'est la personne qui vit. Il est fils du Père. Il n'est pas son fils. Il est fils du Père. Selon la procession éternelle du Verbe. C'est donc le Verbe qui, subsistant éternellement dans la nature divine, va subsister dans la nature humaine, ou va plus exactement, va assumer la nature humaine pour que la nature humaine subsiste dans le Verbe, quand de fait, le mystère de l'incarnation s'est réalisé en Marie, par l'opération de l'Esprit Saint. Donc, premier problème, hein, vous voyez un problème qui est très délicat, qui va obliger le théologien de distinguer l'individuation de la subsistance. La nature humaine du Christ est parfaitement individuée en Marie. Le corps du Christ est formé en Marie. Et le corps du Christ dans son individuation, formé à partir de Marie, est parfaitement individué. corps du Christ est parfaitement individué. Comme corps singulier. Comme corps vivant. Et le Christ n'a pas de subsistance propre au niveau de sa nature humaine. Donc je distingue au niveau de la nature humaine l'individu et la subsistance. Et ceux qui connaissent un tout petit peu la position de Maritain au niveau de la personne et de l'individu voient tout de suite sur quoi s'est fondé Maritain. Maritain s'est fondé sur une distinction très nette au point de vue théologique, individu et subsistance. La subsistance vient du être, l'individuation vient du corps. Formé en Marie. La nature humaine du Christ est parfaitement individuée, et cette nature humaine du Christ n'a pas de subsistance propre, elle subsiste dans le Père. Donc distinguons bien le problème de la subsistance du problème de l'individuation. Cette distinction que fait le théologien est une distinction que nous pouvons comprendre au niveau proprement philosophique. Mais comment devons-nous la transposer en philosophie? Il faut bien comprendre que ce problème se pose en théologie. Nous y reviendrons avec quelques petites explications. Deuxièmement, par rapport à la très sainte Trinité, qu'est-ce que la foi nous dit? Une substance, une nature, consubstantielle et une nature. C'est bien la traduction du credo qui a fait couler de l'encre, parce que le consubstantiel a été traduit par une nature. Et alors, certains plus puristes que tous les autres ont voulu dire, là on fait une faute. N'oublions pas que saint Thomas, quand il s'agit de Dieu, emploie substance et nature l'un pour l'autre. Et saint Augustin aussi. Alors, il ne faut pas être trop puriste. Il faut comprendre qu'en Dieu, il y a une nature et une substance. C'est pour ça que le Fils est consubstantiel au Père et qu'il a la même nature que le Père. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint est consubstantiel au Père et qu'il a la même nature que le Père. Parce que quand il s'agit en Dieu, on veut montrer qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu. Donc, s'il y a un seul Dieu, une nature, une res. Je ne dis pas qu'il y a trois res. Je ne dis pas qu'il y a trois substances en Dieu, dans la très sainte Trinité. Une substance, une nature, une réalité. Et cependant, la foi me dit trois personnes. Trois personnes, donc trois personnes qui subsistent dans la même réalité. Dans la même simplicité. Dieu est absolument saint. Donc il a une unité absolue, omnino simplex, tout à fait simple. Et dans sa simplicité, il y a trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et chacune de ces personnes subsiste, chacune d'eux subsiste, dans l'unique nature. Ne cherchez pas à comprendre. Regardez le mystère de la très sainte Trinité, ça devient dangereux. Il faut comprendre ce que la foi nous dit et saisir qu'il n'y a pas de contradiction. La seule chose que peut saisir, c'est pas contradictoire. Pourquoi ? À cause du caractère infini. C'est la simplicité et l'infini. Ce sont tous les deux qui nous permettent de comprendre qu'il n'y a pas de contradiction. Mais dans cette unique nature, absolument simple, trois personnes subsistent. Vous voyez que le problème de la subsistance vient avec le problème de la personne. toute personne implique une séduction. Alors, je peux me poser le problème, ça s'est posé, est-ce que je peux dire que la substance unique de Dieu implique une subsistance? Alors là, c'est... Je peux dire oui, en ce sens que la réalité profonde en Dieu, c'est l'unité de Dieu. Et c'est, ça explique, vous savez, Maître Eckhart, hein, faut bien comprendre cette vision un peu néoplatonicienne, intéressante, on dit simplicité de Dieu, trois personnes et de nouveau la vérité. L'unité, les trois, l'unité. L'unité n'est pas supprimée par les trois, c'est bien évident. Et donc je la retrouve après avoir affirmé les trois. Et je retrouve l'identité au-delà des trois. La petite tentation. Je ne peux pas la découvrir au-delà. Il n'y a pas un au-delà des trois. Parce que les trois sont dans la simplicité. Et la petite tentation, et c'est une tentation qui peut très bien arriver dans une certaine mystique, de retrouver l'unité au-delà des trois. Alors je ne peux pas dire au-delà. Je veux dire dans les trois. Dans les trois, il y a l'unité. Mais au point de vue du langage, vous voyez, je mets déité. Je formalise l'unité après les trois. Et je risque alors de dire qu'au-delà des trois personnes, il y a une subsistance absolument une, qui est la déité. Mais comment le problème peut se poser? C'est intéressant, parce que ça peut exister, ça existe de temps en temps. Hein. On voit très bien avec les confrontations de mystiques chrétiennes, de mystiques de l'Inde, de mystiques. Alors on veut dire, mais oui, il y a quelque chose de commun. Alors c'est de redécouvrir la déité au-delà des trois. Et alors la déité au-delà de trois me permet de mettre l'absolu dernier dans l'unité. Et je mets un absolu dernier dans l'unité. Et alors, grâce à cet absolu dernier dans l'unité, le néoplatonisme ferait assez facilement ça. Et il y a dans Maître Eckhart, il y a une tendance vers ça. Maître Eckhart reste un chrétien, et donc il reste bien avec l'affirmation des trois personnes divines, mais quand on le lit un tout petit peu de l'extérieur, on aura la tendance de dire cela. Et c'est le mouvement. L'unité, les trois. Ceci, c'est pour vous montrer que le problème de la subsistance est au cœur de la contemplation du théologien. Puisque nous le trouvons du côté du mystère du Christ et nous le retrouvons du côté du mystère de la très sainte Trinité. Alors, la contemplation du théologien, c'est avant tout à l'égard du mystère même du Christ et du mystère de la très sainte Trinité. Alors, je vais vous lire tout simplement quelques aspects que nous trouvons dans saint Thomas qui sont intéressants à essayer de préciser. Donc, ces problèmes théologiques ont obligé les théologiens, spécialement saint Thomas, à préciser ce que, du point de vue métaphysique, mais une métaphysique, disons, d'un point de vue sagesse, il fallait entendre exactement par subsister. Et comment on pouvait affirmer que subsister était le propre de la substance. Seule la substance subsiste. Ça, vous le retrouvez constamment dans saint Thomas. Saint Thomas nous dit par exemple, je prends dans le commentaire des sentences, puisque c'est toujours dans le commentaire des sentences que nous voyons les premiers balbutiements de saint Thomas, encore disciple d'Albert le Grand, et donc tendance avicennienne. Il nous dit ceci, « Ratio substantiae est quod per se subsistat. » C'est très joli comme expression. La raison de substance. Donc ce qui fait que la substance est substance. La raison substance. La ratio substantiae est quod per se subsistat. Elle est ce par quoi elle subsiste.
Le propre de la substance, c'est de subsister. Il nous le dit dans le De Potentia, quam vis nihil subsistat, nisi individua substantia. Vous voyez que le problème de la substance vient après l'individu. Quam vis, bien que rien ne subsiste, que la substance individuelle. La substance individuelle seule subsiste. Donc, c'est la propriété du pos de la substance. C'est pas la propriété d'un principe. Il n'y a pas de propriété d'un principe. Ce serait une mauvaise interprétation. Quam vis, et ça c'est De Potentia. De Potentia est une œuvre plus tardive. Quam vis nihil subsistat, nisi individua substantia. Dans le De Veritate, saint Thomas dit in quod est in predicamento substantiae, est in suo esse subsistens. Cela qui est dans le prédicament de la substance est subsistant dans son essai. Et subsistant dans son essai. Oui. Ce qui est dans le prédicament substance, donc c'est la substance première. Et ce qui donc est subsistant dans son essai. Alors, voyez, c'est ça qui est très curieux. Hein. J'espère que vous avez saisi. Je vais subsistant. Arrêtez
et la référence à la substance individuelle.
Et je crois que la subsistance a toujours une double référence à l'essai et à la substance individuelle. C'est pour ça que j'aime de vous donner ces textes. Parce que là, je suis devant des affirmations de saint Thomas qui sont difficiles à comprendre. Vous n'avez qu'à les mettre en parallèle. Donc, De Potentia, question 9, article 1er, ad quartum, De Potentia, question 9, hein, vous savez comment il faut écrire ça, il faut savoir les références. De Potentia, question 9, ad quartum, quam vis nihil subsistat, nisi individua substantia. Bien que rien ne subsiste que la substance individuelle. La substance individuelle seule subsiste. Traduisez comme ça. C'est exact. La substance individuelle seule subsiste. Donc, c'est le propre de la substance individuelle. Puisque seul. Le propre, vous avez bien, le propre c'est quelque chose de tout à fait technique. Le propre, c'est toujours quelque chose d'unique, à la différence de ce qui est commun et qui est accidentel. Quand je dis le propre de l'homme, c'est de rire, plus exactement, le propre de l'homme, c'est d'être capable de rire. Parce que la capacité de rire n'existe pas chez le singe, ni chez le chien. Apprenez un chien, un jeune chien. Après que c'est pas commode. Et s'il sourit, il sera bon pour le cirque. C'est ça ? Parce que c'est pas commode. Le propre de l'homme, vous voyez, quand on dit le propre de l'homme, ça veut dire ce qui caractérise l'homme. Ce qui est propre à l'homme et qui n'est pas propre à l'animal. Alors ici, Saint Thomas dit le propre de la substance animale. Et saint Thomas nous dit dans le De Veritate, question 27, article 1er, ad octavum, id quod est in predicamento substantiae. Donc cela qui est dans le prédicament substance, et subsistens in suo esse. Il subsiste dans
donc la double référence. Il est le propre de la substance individuelle et il subsiste dans son esprit. La substance individuelle, la substance individuelle subsiste dans son esprit. C'est la substance première. Le taux d'épi, Aristote. Dans le commentaire de la métaphysique, saint Thomas dit ceci, substantia prima, puius proprie est subsistere. La substance première dont le propre est de subsister. Et il nous dit un peu plus loin, dans le commentaire des métaphysiques, 10, leçon 3, numéro 1979. Quaotem solum est substantia, qui subsistit. Donc seule la substance subsiste. Et dans le traité de l'union du verbe incarné, est autem substantiae proprium ut per se et in se subsistat. Alors, quand vous avez le per se, donc le propre de la substance individuelle, c'est per se et in se, par elle-même et en elle-même. Donc je crois que c'est assez net dans la doctrine de saint Thomas qu'on peut dire que la subsistance caractérise la substance première. Caractérise la substance. Donc continuons, c'est la première affirmation, notez cela, que le propre de la substance première, c'est de subsister. Quant au terme subsistentia, saint Thomas rappelle, nous l'avons vu, qu'il correspond proprement au terme grec ousiosis. Ça, c'est très intéressant au point de vue philologique de voir le passage de la subsistentia en latin au terme grec ousiosis. Ousiosis, le terme grec ousiosis. Voici ce que dit saint Thomas, c'est dans la somme, donc, correspond proprement au terme grec ousiosis, mais a été utilisé par latin, par les latins pour traduire hypostasis. Vous voyez là, le passage. Donc, en réalité, les latins ont pris hypostasis. Alors vous allez voir toutes les difficultés que ça peut poser. Alors, si de fait, saint Thomas utilise surtout le terme concret, subsistens, et non pas subsistentia, l'existant par soi, il se sert aussi du terme abstrait lorsqu'il veut exprimer d'une manière plus formelle, plus précise, selon un mode de séparation et désigner le constitutif formel de la réalité subsistante. Ce par quoi ce quelque chose en caliquide subsiste, existe par soi. Vous voyez le passage, hein? Cette réalité subsiste. Qu'est-ce que c'est que la subsistentia? C'est ce par quoi ce qui subsiste subsiste. Toujours le passage du concret à l'abstrait. L'abstrait formalise. Blanc, blancheur, on est tout simplement. Alors ici, on est devant quelque chose un petit peu plus subtil que blanc, blancheur. On est en face de ces deux termes. Subsistance. Subsistance, c'est la valeur de N. Et subsistance. L'analogue, hein, comprenez bien. Subsistant, traduisez ce qui subsiste. Qu'est-ce qui subsiste, vous? Vous subsistez. C'est évident. Vous vous subsistez parce que vous êtes une substance première. Au terme, une substance individuelle. Vous subsistez. Donc ce qui subsiste. Ce par quoi ce qui subsiste, subsiste. Ce par quoi. Ce qui subsiste, subsiste. C'est la subsistance. C'est l'abstrait par rapport au concret. C'était blanc, blancheur. L'homme est en face, évidemment, de quelque chose de particulièrement difficile à saisir. Saint Thomas emploie ordinairement le terme subsistance et Saint Thomas emploie rarement le terme subsistentia, ce par quoi ce qui subsiste, subsiste. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Subsistere exprime bien une manière d'exister, une manière d'être. Subsister dit un mode déterminé d'être, à savoir en tant que quelque chose est une réalité par elle-même, non dans un autre. Donc ça s'oppose à l'accident. L'accident inère, c'est-à-dire qu'il est relatif à un autre, et il n'existe que dans un autre. Tandis qu'au contraire, la substance, elle existe en elle-même et par elle-même. Voilà ce que nous voulons dire quand nous disons « subsiste ». Subsister, c'est une manière particulière d'être, qui est d'être par soi, sans faire appel à un autre. Vous vous tenez debout sans canne. Si vous vous tenez debout avec une canne, vous vous appuyez sur un autre. Donc vous ne subsistez pas. Vous voyez bien, transposé, hein, symboliquement, n'est-ce pas ? Tandis qu'au contraire, quand on se tient debout par soi, on subsiste. C'est exister par soi, subsister. Vous voyez, c'est une manière d'être, c'est bien l'autonomie dans l'ordre de l'être. Vous voyez, c'est bien l'autonomie dans l'ordre de l'être. Je subsiste en moi-même. Je n'ai besoin de rien. Il appartient à Dieu seul d'avoir pour mode propre d'être son essai subsistant. Ça, c'est l'affirmation de saint Thomas à propos de la simplicité de Dieu. Solius autem dei proprium modus essendi est, ut sit suum esse subsistant. Il est son esse subsistant. Il subsiste dans son esse. Son existé subsiste. Vous ne pouvez pas dire que votre existé subsiste. Mais vous pouvez dire que votre substance subsiste. On touche là des arcanes de la métaphysique très particuliers. Subsister signifie une manière autonome d'être, ce qui implique une certaine perfection, un certain achèvement dans l'ordre de l'être. Parmi les créatures matérielles, celles qui sont parfaites et subsistantes sont composées. Or, la forme en elle n'est pas quelque chose de complet et de subsistant, mais plutôt ce par quoi quelque chose est. Subsistere se distingue donc de ce qui n'est qu'un co, un principe, un élément, une partie. Je prends encore le dernier. Subsister implique un retour vers l'essence. Le retour que nous trouvons chez les néoplatoniciens à propos de la conscience. Il y a un retour vers soi. Quand on subsiste, on est capable d'exister indépendamment d'un autre. Il y a comme une espèce de réduplication, de retour sur le principe. Ça qui est très curieux. Dans le fait que nous parlons de subsister, subsister implique un retour vers l'essence. Revenir vers son essence n'est autre que le subsisterait, le subsister de la réalité elle-même. C'est saint Thomas qui nous dit ça. Reddire ad essentiam suam, nihil aliud est, quam rem subsistere in se ipsa. Donc, c'est la reddition, le retour vers soi, le reddire, exactement comme l'esprit. Et là, c'est du côté de l'être. Vous comprenez que c'est métaphorique. C'est une application dans l'ordre de l'être, ce qui est vrai du côté de l'esprit. C'est pour ça que j'ai pris exprès les deux. Pour que nous comprenions ce que représente ce fait de subsister. Subsister, c'est exister en soi-même indépendamment d'un autre. Nous continuerons cela après. Oh, je ne rentrerai pas trop longtemps dans le fait de la subsistance, mais c'est quand même un problème.